L'égalité salariale est-elle une chimère? C'est la question qu'En Ligne Directe vous pose ce matin. Isabelle Cornat, bonjour.
Bonjour Renaud.
Isabelle, on a découvert cette semaine les chiffres de l'OFS et ce qu'ils nous apprennent, eh bien, c'est que l'écart de salaire entre les hommes et les femmes s'est creusé au lieu de se réduire.
Oui, tout à fait. La situation s'empire. Entre 2010 et 2012, l'écart de salaire entre hommes et femmes, eh bien, au lieu de diminuer, il a augmenté de 0,5 points et la Suisse est plutôt donc en queue de peloton au niveau européen. Par mois, une femme en Suisse gagne en moyenne 677 francs de moins qu'un homme. Un écart qui s'explique en partie par des différences dans la formation, dans l'expérience professionnelle, mais aussi par de la pure discrimination. Et pourtant, le principe de l'égalité salariale est inscrit dans la Constitution fédérale depuis 1981. Du coup, le Conseil fédéral dit vouloir agir. La ministre de la Justice devrait présenter un projet d'ici l'été. Mais comment expliquer que l'on en soit toujours là, alors que l'égalité salariale, ce n'est pas l'aspect de la lutte féministe qui fait le plus débat? Est-ce que ça veut dire que les actions menées sur une base volontaire ne sont pas efficaces? Est-ce qu'il faut soutenir des initiatives plus coercitives à l'égard des entreprises ou encore mieux coacher les femmes qui sont si peu nombreuses à oser demander des augmentations de salaire?
L'égalité salariale, on en débat tout de suite avec nos trois invités. Je rappelle évidemment que vous pouvez réagir en direct sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter en utilisant le hashtag ENLD. Et puis bien sûr, il y a notre ligne téléphonique 0823 33 33 pour vos réactions ou vos questions. Vous écoutez La Première, c'est En Ligne Directe.
En Ligne Directe, Renaud Malik, Isabelle Cornat.
Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Françoise Piron, Olivier Sandeau et Stéphanie Apotello. Bonjour.
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 Françoise Piron, vous êtes la directrice de PACT, une association active pour la promotion des femmes en entreprise. Olivier Sandeau, vous êtes directeur général adjoint de la Fédération des entreprises romandes à Genève. Et Stéphanie Apotello, enfin, vous êtes députée PS au Grand Conseil Vaudois, directrice d'une agence de communication, mais on vous connaît aussi comme la cofondatrice de l'association Féminista. Alors Stéphanie Apotello, vous avez découvert comme nous les chiffres de l'EFS, l'écart salarial entre les hommes et les femmes s'est donc creusé entre 2010 et 2012. On se serait plutôt attendu à ce que ce soit le contraire. Ça vous étonne ces chiffres? Ça vous choque? Ça vous met en colère?
Bon, ça m'attriste principalement. Après, étonné, je sais pas. On parle de 0,5%. Ça fait des années que ça avance pas beaucoup, voire pas du tout. On est dans une stagnation permanente. Bah, un pas en avant, trois pas en arrière, quoi.
Mais comment est-ce que vous expliquez, malgré tout, cette régression, même légère?
Ben, je l'explique par le fait qu'on est attentiste et puis qu'on parle de... On essaie de promouvoir l'égalité salariale par des moyens incitatifs et volontaires des entreprises, puis ça ne fonctionne pas.
Ça ne fonctionne pas. Françoise Piron, vous partagez cette analyse. Vous les expliquez comment, vous, les chiffres de l'OFS? Au fond, à qui la faute?
Je les relativise parce que c'est 0,5%. C'est vrai que c'est... Mais entre 2010 et 2012, ça veut dire depuis la crise économique. Et ça ne m'étonne pas que ça soit pire quand il y a une crise. Parce que depuis qu'il y a une crise économique... vis-à-vis des femmes, on ressent quand même qu'on cherche de nouveau à pousser les femmes à rester à la maison. Donc on n'est pas dans quelque chose, on est moins dans la promotion des femmes en général. Hein. Dès qu'il y a une crise économique, on sait qu'il y a une pression sur les femmes. Voilà. Donc ça ne m'étonne pas trop que dans ce contexte-là, elles n'osent encore moins que d'habitude, disons, revendiquer un salaire plus élevé ou aller négocier. Voilà.
Olivier Sandeau, le fait que l'écart homme-femme se creuse, c'est le signe que les entreprises ne sont pas à la hauteur?
Non, je ne crois pas. C'est vrai que la différence a augmenté de 0,5 points en 2010 et 2012, mais il ne faut quand même pas perdre de vue que cette différence a régulièrement diminué depuis l'année 2000 jusqu'à 2010, faiblement certes, mais on a enregistré une diminution quand même. Et comme vous l'avez dit au début de reportage, il ne faut pas oublier que sur le 18,9% que l'on nous donne, il faut retirer 60% liés à des motifs objectifs, ce qui nous donne une discrimination de 8,7%. Et la situation varie beaucoup d'un canton à un autre, puisqu'à Genève, par exemple, où le bureau de l'égalité est très proche des entreprises et très actif, eh bien, nous avons des inégalités de 8%, duquel vous devez retrancher le 60% dû à des motifs objectifs, ce qui vous donne des discriminations de 3,2%.
Une discrimination de 8,7% à l'échelle de la Suisse, c'est encore beaucoup trop, vous le reconnaissez?
C'est encore beaucoup trop, mais encore une fois, si je me base sur l'exemple genevois que je connais, le bureau de l'égalité collabore beaucoup avec les milieux économiques. Nous avons élaboré une brochure, un guide pratique, et je vois que lorsqu'il y a des mesures incitatives et que vous avez un bureau de l'égalité qui est proche des employeurs, eh bien, cela peut fonctionner.
Françoise Piron, on a pu entendre ces derniers jours Roland Muller, le directeur de l'Union patronale suisse, parler d'une différence d'état d'esprit entre hommes et femmes. Je le cite, les hommes seraient plus enclins à accepter des heures supplémentaires, ils feraient preuve de davantage de souplesse. Il ajoute que de plus en plus de femmes souhaitent travailler à des horaires réguliers, elles veulent des conditions de travail qui laissent moins de place à l'imprévu. Cette analyse, vous en pensez quoi?
Bah alors, je ne sais pas sur quoi il se base pour dire ça. Bon, c'est peut-être subjectif, plus ou moins subjectif. Mais en tout cas, il est clair que pour une femme, elle va, et je le remarque, hein, elle va toujours mettre en priorité quand même son équilibre familial. Donc pour celles qui ont des enfants. Et il est vrai que si elle obtient ce taux de travail, cet équilibre qu'elle souhaite, elle va se dire, bah, je suis contente, reconnaissance envers mon employeur. Donc elle ne va pas revendiquer en premier le salaire, plutôt l'aménagement du temps de travail. Mmh. Ça c'est clair qu'elle ne va pas prendre le risque de perdre sur ce plan-là. Globalement. Mais cela dit, ça suffit pas. Là, il va un peu plus loin que ça. Hein. Il parle même de manque d'ambition et de ça. C'est quand même des choses un peu différentes.
Il faut peut-être nuancer, mais de manière générale, vous dites que les responsabilités sont en quelque sorte partagées dans cet écart salarial qui se creuse ou en tout cas qui stagne.
Alors oui, parce que. Je veux dire, moi, j'aime pas dire que voilà, c'est la faute à Yaka. Voilà, ça c'est pas du tout mon langage d'habitude. Ce que je constate et ce qui qui m'inquiète encore plus que les salaires de base, les petits salaires, c'est les salaires de cadres et de cadres supérieurs des femmes qui sont là, voire 30%. Il y a un écart encore plus grand. Plus on monte dans la hiérarchie, il semblerait que les femmes sont de moins en moins payées par rapport aux hommes. Et ça, c'est encore plus inquiétant, parce qu'elles devraient être des modèles, elles devraient tirer les salaires des femmes vers le haut, et c'est ce qui ne se passe pas.
Et
donc quand on parle de 20%, c'est la moyenne des salaires, donc les hauts salaires, c'est 30%.
Et ça ne se passe pas pour cause de sexisme ou pour cause de manque d'ambition ou de...
Alors il y a deux exemples que je peux vous donner. Il y a un exemple d'une femme qui était manager de son équipe, qui venait d'être nommée depuis quelques mois et qui, à la fin de l'année, on lui a donné les ressources humaines lui ont donné les salaires de son équipe pour les bonus. Et là, elle a remarqué qu'elle était la moins payée de toute l'équipe.
Elle ne s'était pas intéressée à cela jusque-là.
Alors, elle ne s'était pas intéressée à ça et les ressources humaines n'avaient pas remarqué. Bon, alors là, je dirais que les torts sont un peu partagés. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas que certaines institutions ne contrôlent pas ça. Voilà, ça, c'est des exemples. Maintenant, j'en ai aussi une manager qui m'a dit « Ah, mais je ne te croyais pas du tout concernant ces inégalités de salaire. Tu me parlais de 20 ou 30%. » Mais finalement, moi, elle avait une cinquantaine d'années, ça faisait des années qu'elle est dans ces postes-là, et elle s'est intéressée un jour à la question, elle a remarqué effectivement qu'elle avait un très grand écart de salaire et elle allait le négocier et ils ont rattrapé 10% par année pour essayer entre 2-3 ans de rattraper. Donc je crois que les femmes, elles mettent pas ça en priorité. Surtout quand elles sont dans des postes à responsabilité, elles sont contentes d'être là. Et il y en a même qui sont capables de me dire « Mais oui, mais je suis déjà contente parce que je suis la seule femme là, je vais pas tout demander en même temps. » Donc il y a ce genre de choses et il y a le fait que les femmes n'aiment pas négocier leur salaire. Elles n'aiment pas ça.
Stéphanie Apotello, d'une certaine manière, les torts sont ou seraient peu partagés. Qu'est-ce que vous pensez
de ça? De mon point de vue, les torts sont absolument pas partagés et on est en train de faire un peu comme dans le cas des agressions sexuelles, on est en train de... Enfin, moi, j'ai envie de vous répondre, il faut que la honte, elle change de camp. La première fois qu'on a demandé qu'il y a eu des revendications d'égalité salariale, c'était en 1873. C'est-à-dire, c'est pas il y a 2-3 ans, quoi. C'est il y a bientôt 150 ans. Alors, vous venez me dire, elles négocient pas assez, elles demandent pas d'augmentation, et puis elles sont pas assez flexibles. Mais c'est incroyable d'oser dire des choses pareilles, quoi. Les femmes, elles sont dans les métiers de la vente, du soin, du nettoyage, du social, du service, mais il y a quelle marge de négociation dans ce genre d'emploi? Il y en a pas. Et puis, comme disait Françoise, évidemment que quand on a enfin trouvé un petit peu un équilibre entre ses enfants, ses trajets, l'école, les activités parascolaires, etc., etc., bah oui, on semble moins flexible aux yeux de l'employeur. Il faut voir la vie complète des femmes, leur agenda sur la semaine, et puis on se rend compte de l'immense flexibilité. Elles sont en train de gérer des agendas de ministres, en fait. Et puis, oui, elles sont... Certaines femmes, c'est vrai que c'est assez triste ce que j'entends de Madame Piron par rapport aux femmes cadres, qui seraient en effet celles qui devraient être des exemples, c'est les seules qui sont outillées. C'est-à-dire elles ont le background, elles ont ce qu'il faut d'un point de vue, elles ont les compétences, elles ont les connaissances, elles ont le cadre socio-professionnel qui fait qu'elles devraient pouvoir négocier, puis ça n'arrive pas. Alors est-ce que c'est la faute des femmes? Ça, peut-être qu'il faut s'interroger un peu plus largement puis se demander si l'institutionnel, si les structures et puis si le monde du travail laisse la place à ce genre de comportement. Est-ce que quand une femme va dans un rendez-vous d'entretien d'embauche puis qu'elle dit « Ok, mais moi je veux gagner 10 000 francs de plus que ce que j'ai maintenant », est-ce qu'on la prend ? Est-ce qu'on est en train de se dire « Oui, c'est une top manager, je la prends » ou est-ce qu'on se dit « Ouh là là, celle-là, elle m'agace, elle en demande trop, je la prends pas ». Les femmes, elles ont peut-être les compétences de négocier, mais elles n'ont pas les outils et elles sont mal perçues quand elles le font.
8h18 sur la première. Vous écoutez en ligne directe. On s'interroge ce matin sur l'égalité salariale homme-femme. Pourquoi n'y arrive-t-on toujours pas ? Peut-on continuer de miser sur la bonne volonté des entreprises ou bien faut-il se résoudre à des mesures plus contraignantes ? Vous pouvez dès maintenant nous appeler au 0800 23 33 33 ou réagir au débat sur notre page Facebook ou sur Twitter avec le hashtag en ligne directe. Isabelle Corna, tout de suite peut-être un premier aperçu de ce que nous disent les réseaux sociaux.
On a déjà des premières réaction à notre débat de ce matin. Mathilde qui nous dit comment est-ce qu'on peut oser dire que les femmes ne sont pas assez flexibles. On a eu des réactions hier assez intéressantes. Sylvia qui nous dit que si les salaires n'étaient pas aussi tabous, ben le problème serait réglé depuis longtemps. Diana va dans le même sens. Les salariés ne disposent ainsi souvent pas des informations nécessaires pour comparer et si besoin faire des revendications. Il faut obliger les entreprises à être transparentes sur les salaires versés. Ça aura aussi, dit-elle, un effet correctif naturel en général. Lola nous dit que pour parvenir à cette égalité, il faudrait un meilleur équilibre des rôles de chacun qui passe aussi par l'introduction d'un congé paternité, donc changer les choses à ce niveau-là. David, lui, est plus sceptique. Les femmes sont majoritaires en nombre et malheureusement divisées, dit-il, sur le sujet. C'est un sujet de responsabilité des entreprises pour lui en premier lieu. Et puis enfin, parmi nos auditeurs, les avis sont partagés aussi au sujet de l'impact que pourrait avoir un salaire minimum pour réduire l'écart salarial entre hommes et femmes. D'ailleurs, l'Union syndicale suisse s'est exprimée hier à ce sujet. Ils estiment que oui, ça aura un impact. Il précise que sur 3 travailleurs qui gagnent moins de 22 francs de l'heure, et ben 2 sont des femmes. Donc sur les 7,7 milliards de francs qui échappent chaque année aux femmes en raison des discriminations salariales, 1 milliard leur serait restitué si l'initiative passe. Initiative pour le salaire minimum. Et bon, on voit par exemple qu'Alberto Mocchi, Vervaudois sur Twitter, nous dit que lui aussi pense que le salaire minimum serait une première solution pour éviter en tout cas de trop bas salaires, tous sexes confondus.
Le fameux salaire minimum sur lequel on se prononcera évidemment le 18 mai, Françoise Piron, ce serait une bonne solution au problème de l'inégalité salariale ?
Alors, je suis un peu dubitative sur ce sujet du salaire minimum, parce que je pense que les femmes, elles ont encore, disons, par rapport à ce qu'elles gagnent, on a vu encore qu'elles donnent beaucoup trop. Les frais de garde ne sont pas reconnus comme des frais d'acquisition de revenus vraiment. Les allocations familiales ne sont pas déductibles de votre revenu. Enfin, tout ce genre de choses appauvrit plus les familles, à mon avis, actuellement, et les femmes, puisqu'on a vu, même les bureaux de l'égalité ont fait une enquête sur le travail des femmes. Et ça, le titre de l'enquête, c'est « Quand le travail rapporte ».
Coûte plus qu'il ne rapporte,
voilà. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les femmes ont beau travailler, elles ne s'enrichissent pas plus. Donc, c'est pas une question de salaire minimum, là, c'est une question véritablement de la façon dont les familles sont imposées, du regard de la société sur le travail des femmes et du travail d'une mère. Et donc, si on veut vraiment enrichir les femmes, c'est pas. Et puis que le travail les valorise véritablement. Là, on est en train de peut-être de pas partir dans la bonne direction. Mais cela dit, je ne suis pas une spécialiste. Je suis plutôt pour le revenu de base, moi, généralisé.
Olivier Sandot, oui. On a ce chiffre, 230 000 femmes vivraient avec moins de 4 000 francs par mois en Suisse. Est-ce que ça ne plaide pas en faveur du salaire minimum à 4 000 francs ?
Non, absolument pas, et je vais vous répondre. J'aimerais juste revenir rapidement sur ce qui a été dit précédemment. Je vous confirme que des sociologues et des économistes ont réalisé des études qui démontrent que généralement les femmes sont moins intéressées à négocier le salaire et qu'elles sont plus intéressées par des horaires ou des temps de travail. Ceci étant dit, il faut éviter de dire c'est la faute de l'un ou de l'autre. Et il faut surtout éviter de comparer des problèmes d'ordre salariaux avec des infractions d'ordre sexuel, comme cela a été fait précédemment. Maintenant, par rapport au salaire minimum, évidemment que ce n'est pas une solution, puisque, comme cela a été dit, les domaines où les inégalités sont les plus grandes, ce ne sont pas dans les bas salaires, ce sont dans les hauts salaires, au niveau cadre et cadre supérieur. Les pays tels que la France, qui connaissent un SMIC, eh bien, ont des taux d'inégalité très proches, voire supérieurs à ceux que l'on connaît en Suisse, et je verrais plutôt un salaire minimum comme un risque, justement, pour les femmes concernés pour les jeunes et pour les personnes sans formation qui, plutôt que d'avoir un emploi certes peut-être pas rémunéré à sa juste valeur, eh bien n'auront tout simplement plus.
Vous citez des chiffres sur la France. Bon, il y a des socialistes qui citent des études sur la Grande-Bretagne qui montrent que l'inégalité salariale a fortement reculé avec l'instauration du salaire minimum. Stéphanie Apotello.
Il y a même des hommes qui ont gagné récemment un procès en Grande-Bretagne. Ils ont pu démontrer qu'ils subissaient une discrimination par rapport à des femmes.
Moi, je rêve que ça arrive en Suisse, mais je pense qu'on a un petit peu d'attente.
Stéphanie Apotello, vous, le salaire minimum, c'est une bonne réponse.
Oui, je pense que c'est une réponse indispensable. Parce qu'en effet, peut-être que dans les bas salaires, il y a peu d'inégalités salariales horizontales, parce que la marge de manœuvre est tellement faible que tous les vendeurs et vendeuses sont traités à la même enseigne. Mais là, l'inégalité, elle est structurelle. Les métiers où on gagne le moins et où on est le plus concerné par les moins de 4000 francs, c'est les métiers typiquement féminins. Donc l'inégalité, là, elle n'est pas personne à côté, enfin, entre collègues, elle est globalement entre corps de métier. Il y a la justification de ces minuscules salaires dans certains domaines, notamment le social, la santé, les vendeuses, etc., l'hôtellerie, etc. Elle est en partie injustifiable. Et puis de manière générale, sur cette question-là, il faut voir les choses de manière beaucoup plus globale. Parce qu'on nous dit toujours, oui, mais alors si dans l'agriculture on donne 4000 francs, les tomates vont coûter beaucoup trop cher, etc., etc. Mais il faut voir ça d'un point de vue beaucoup plus global. Où en amont tout le monde à 4000 francs, on est créateur de richesses et on se rend compte qu'en fait, de manière générale, il y aura plus de monde pour acheter des tomates suisses.
François Spiron, bon, on a compris que vous étiez réservé par rapport à ce salaire minimum. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui avec l'approche des autorités, notamment du Conseil fédéral, qui a constaté récemment que l'approche misant sur le dialogue s'était soldée par un échec. Aujourd'hui, Simonetta Sommaruga prévoit de venir avant l'été avec de nouvelles propositions plus contraignantes pour les entreprises, afin justement de parvenir à une meilleure égalité salariale. On n'a plus le choix aujourd'hui que de faire preuve de contrainte vis-à-vis des entreprises.
Alors c'est dommage d'en arriver là. Effectivement, moi je rejoins le fait qu'il faudrait dialoguer avec le patronat et on doit informer. J'aime pas parler de faute hein, des uns et des autres, ni des femmes, voilà. C'est des choix de vie, des choix de valeur. Donc pour les femmes, ce sont pas simplement des fautes. Maintenant, je trouve dommage d'en arriver là parce que effectivement, jusque-là, ce qui se passe, c'est que dans les cas criants d'inégalité salariale, on n'avait aucun moyen d'action et on ne pouvait pas prendre de sanctions. Alors mettre dans la loi, inscrire dans la loi qu'il doit avoir égalité salariale et pas pouvoir prendre de sanctions dans le cas où c'est avéré qu'une entreprise fait vraiment exprès, entre guillemets, de le faire, c'est quand même un petit peu incohérent. Voilà. Mais cela dit, moi, ce qui pourrait me faire craindre, c'est qu'on commence à polisser tout le système et mettre des moyens supplémentaires pour tout contrôler et qu'on soit dans une société de contrôle au lieu de qu'on soit dans la relation de confiance qu'on essaye, en tout cas une association comme la nôtre, d'avoir avec les employeurs et d'avoir avec les femmes qui doivent avoir confiance pour négocier. Enfin, c'est le climat que je crains là-dedans, le climat et l'environnement qui va s'instaurer. Déjà, oui, que la crise économique n'arrange pas les choses.
Olivier Sandeau, vous, le représentant des entreprises, j'imagine que vous partagerez l'analyse de François Spiron. Absolument. Cela dit, est-ce que face aux cas d'abus les plus graves, est-ce qu'il ne faudrait pas un surveillant des salaires, un surveillant de l'égalité salariale comme il y a aujourd'hui un surveillant des prix ?
Non, absolument pas, parce que en cas d'abus aujourd'hui déjà, vous avez une loi fédérale sur l'égalité qui existe et puis qui prévoit un allègement du fardeau de la preuve. Alors vous allez me dire qu'il faut quand même faire une procédure et qui n'est pas simple, mais les instruments existent déjà aujourd'hui. Moi, encore une fois, où j'aimerais bien en venir, c'est que puisque ça marche assez bien à Genève, et je pense que dans le canton de Vaud, on doit être à un taux à peu près semblable, pourquoi ne pas essayer de comprendre ce qui fait que dans d'autres cantons, je pense en Suisse alémanique, le taux n'est pas le même, et puis essayer de faire en Suisse alémanique ce que nous faisons à Genève ou dans le canton de Vaud. Avant de vouloir prendre le bâton, je pense qu'il y a vraiment un effort de compréhension pour déjà essayer de voir, mais ce qui marche à une place, pourquoi est-ce que ça ne marche pas dans un autre canton ?
Stéphanie Apotello.
Oui, je voudrais juste rappeler que l'inégalité salariale, c'est une infraction légale, exactement comme les agressions sexuelles ou le harcèlement, etc. Alors si tout va tellement bien à Genève ou dans le canton de Vaud, ne nous inquiétons pas, mettons en place l'armada des sanctions. les gens à Genève, en canton de Vaud, ne seront pas sanctionnés vu qu'ils sont parfaits et qu'ils ne font pas d'erreur, et puis on sanctionnera tous les Suisses allemands.
Isabelle Corbin.
À défaut de pouvoir contraindre, en tout cas, il y a des actions symboliques qui sont menées. Il y a cette fameuse journée pour l'égalité salariale qui a lieu la veille de la journée de la femme. Alors, en France, la ministre des Droits de la Femme, justement, à l'occasion de cette journée, a lancé cette année la première application pour mobile et smartphone afin de coacher les femmes au travail. On parlait tout à l'heure de leur difficulté, justement, de revendiquer des meilleurs salaires. Cette application s'appelle Leadership pour elles. Alors, tout commence, je suis allée voir, jeter un petit coup d'œil. Tout commence avec un petit quiz sur la confiance en soi et puis des conseils, notamment en vidéo, sur comment agir en leader, faire progresser sa carrière, défendre ses projets, etc. Il y a aussi dans l'application une sorte de simulateur de salaire qui permet aux femmes de mieux se rendre compte des opportunités à côté desquelles elles passent. Alors en Suisse, il y a aussi eu cette journée avec des conférences et puis les organisateurs proposaient aux femmes, par exemple, de sortir avec un sac rouge pour signifier que voilà, les inégalités salariales étaient toujours là. Alors Stéphanie Apotello, je me demande, ce genre d'action symbolique, vous qui êtes aussi directrice d'une agence de communication, est-ce que vous y croyez ? Dans quelle mesure est-ce que ça marche vraiment ?
Bon, ça marche pour le sentiment de, enfin, pour faire parler du sujet, pour que les femmes se sentent faire partie d'un groupe qui peut ensemble réagir, etc. Et bien sûr, pour la sensibilisation, ça marche bien. Mais objectivement, les chiffres, ils stagnent. C'est-à-dire qu'il y a eu une progression sur ces dernières années, c'est super, mais c'est quand même pas, c'est pas qu'on est passé de, qu'on arrive tout près des 3% ou des 0%. On en est encore vraiment loin. Moi, je pense qu'on peut, il y a quand même, entre la loi du bâton qui sanctionne toutes les entreprises puis qui fait fermer des entreprises, il y a quand même un pas qu'on peut faire aujourd'hui entre l'incitatif, le voici le logiciel que vous pouvez utiliser et que personne n'utilise parce que c'est trop compliqué, et puis le mettre tout le monde en prison. On a tout un armada de propositions qui, j'espère, vont arriver du Conseil fédéral et qui vont, j'espère, pouvoir permettre d'aller un peu plus vite qu'avec un sac rouge dans la rue.
Il y a aussi des certifications qui existent, hein, pour des certifications d'égalité salariale, des sortes de labels que les entreprises peuvent obtenir si elles remplissent un certain nombre de critères. Alors là aussi, par exemple, sur le site de Equal Salary, qui est un de ces labels, on voit qu'il y a 20 procédures de certification qui ont été entreprises, c'est pas énorme, et puis qu'il y a 9 entreprises certifiées. Parmi elles, il y a par exemple le World Economic Forum ou deux, trois entreprises privées, la Banque cantonale du Valais, la ville de Fribourg notamment. Donc on voit qu'il y a même des administrations publiques qui figurent. On peut se demander si finalement l'administration ne devrait pas se donner d'office les moyens de garantir l'égalité salariale. On sait que la ville de Zurich a fait pas mal de choses récemment à ce niveau-là. Alors, Madame Piron, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faudrait pas que d'office ce soit pratiquement le cas dans tout ce qui touche en tout cas à l'administration publique ?
Oui, alors le label Equal Salary, je suis très étonnée qu'il ne soit pas encore plus répandu qu'il n'est, parce qu'il permet quand même à une entreprise de faire un contrôle très, très complet et de pouvoir, avec des indices de comparaison, qui enlèvent justement tout ce qui dépend de la formation, etc. Il faut savoir que c'est pas non plus qu'on l'applique pas en 3 jours, c'est-à-dire que ça demande quand même, souvent pour les ressources humaines, un changement de beaucoup de choses, et des contrats, et des codes, etc. Donc c'est pas quelque chose de simple et de pas coûteux à mettre en place. Mais cela dit, les entreprises étaient très étonnées, à peu près toutes, de découvrir que finalement il y avait plus d'inégalités salariales que ce qu'elles pensaient, et elles ont rectifié. Donc ça veut dire que toutes celles, en tout cas, qui l'ont fait, ont pris les mesures pour ça. Donc s'il y avait une bonne volonté. Maintenant, je pense que le coût de la mise en place de cette mesure, de ce label, peut empêcher les entreprises de le faire, et que les institutions publiques, et dans cette liste, il y a plus d'institutions publiques que de secteurs privés. Il y a très peu d'entreprises privées, et depuis 7 ou 8 ans qu'il existe, 9 institutions, c'est quand même pas...
Ouais, c'est pas spectaculaire.
C'est pas spectaculaire.
C'est pas spectaculaire malgré tout. Olivier Sandeau, est-ce que c'est un modèle, cette certification, ce label pour les entreprises qui jouent les bonnes élèves en matière d'égalité salariale, vous pensez que ça reste un modèle qu'il faudrait développer ?
Écoutez, nous soutenons cela, et pour preuve, nous avons organisé à plusieurs reprises le Equal Pay Day à la Fédération des entreprises romandes à Genève, où nous avons vu arriver un nombre important de femmes avec justement un sac rouge. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, le nombre d'employeurs qui consciemment se disent « je vais payer cette personne moins parce que c'est une femme » sont extrêmement rares. Les cas qui existent, c'est des gens qui ne se sont pas rendus compte, comme cela a été dit précédemment, c'est les ressources humaines qui appliquent une grille salariale qui n'a peut-être pas été revue, mais l'employeur qui consciemment fait cela, à mon avis, c'est de plus en plus rare.
Vous dites au final que les entreprises ne sont pas sexistes.
dans leur grande majorité, et encore une fois, j'appose après que ça dépend des régions malheureusement, mais dans leur grande majorité, elles ne le sont pas.
Stéphanie Apotello.
Bon, mais moi, je veux bien laisser le bénéfice du doute. Je suis moi aussi copatronne. Je ne veux pas taper sur la tête de tous les patrons de PME d'entreprise. Mais alors, quelque part, quelqu'un, peut-être ce sera le Conseil fédéral, devrait dire, bon, bah, alors on impose l'equal salary, on le cofinance et puis on y va. Mais c'est vrai, ce que Françoise Piron dit, c'est vrai. Ça va coûter de l'argent. De mettre en place le label, de contrôler toute sa grille salariale et puis de corriger le tir, ça coûte de l'argent de le mettre en place. Puis ça coûte de l'argent de corriger les salaires des femmes. Évidemment.
Isabelle Corna, le mot de la fin.
Oui, le mot de la fin qui nous vient de Sylvia de Saint-Gall qui nous a appelé, qui nous dit la faute des femmes, non. Alors ça, pour elle, c'est clair que non, ça vient de l'enseignement. Elle cite la barrière des maths pour les filles. Donc là, on revient encore à une autre partie du débat. Et puis enfin, peut-être un dernier mot de Mathilde qui nous suit donc sur Twitter, qui nous dit les femmes sont tout autant légitimes d'être cadres, elles n'ont pas à être contentes d'être là. C'est une violence symbolique.
8h33, c'est la fin de cette édition dans Ligne Directe. Merci Françoise Piron, Stéphanie Apotello, Olivier Sandeau. On retiendra notamment que vous êtes divisé quant à savoir si le salaire minimum sur lequel on se prononcera le 18 mai serait bénéfique aux femmes de ce pays. Merci à vous Isabelle Corna et à demain pour une nouvelle édition dans Ligne Directe.